VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chez Romain Lorsil et Saloua Jafari.
Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'édition du lundi 9 mars 2015. Voici les titres.
Le Niger et le Tchad à l'assaut de Boko Haram. Les deux armées viennent de reprendre la ville de Damasak. Une défaite cuisante pour le groupe qui vient de prêter allégeance à l'État islamique.
Le Mali en deuil après une fin de semaine particulièrement violente. La dernière attaque date d'hier. Un camp de l'ONU à Kidal a été pilonné par une trentaine d'obus et de roquettes.
Le gouvernement promet de traquer les coupables. L'enquête est ouverte. La France envoie ses enquêteurs.
La marche de l'armée irakienne vers la reconquête de la ville de Tikrit se poursuit. Le chef d'état-major interarmes des armées des États-Unis est en visite à Bagdad.
L'OTAN préoccupée par la militarisation de la Crimée, la péninsule ukrainienne a été annexée, on se le rappelle, par la Russie l'an dernier.
Nous aurons aussi également nos segments sur l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Boko Haram dans le collimateur, le groupe, nous vous l'annoncions hier, vient de prêter allégeance à l'État islamique. Les armées nigériennes et tchadiennes n'en sont que plus déterminées. Les forces alliées ont repris la ville de Damasak aujourd'hui, selon une source sécuritaire tchadienne. Boko Haram a essuyé de lourdes pertes. Détail, Michel Joseph.
La prise de Damasak, à environ 10 km de la frontière nigérienne, constitue le premier succès majeur de cette offensive conjointe. Une source militaire tchadienne que cite l'agence Reuters fait aussi état de la reconquête de la localité de Malam Fatouri sur la frontière. Côté bilan, diverses sources font état de moins 200 militants islamistes tués, de même que 10 morts et 20 blessés parmi les soldats tchadiens. Des chiffres qui n'ont pas été confirmés de sources indépendantes. L'offensive en cours s'opère avec le feu vert du Nigeria, a tenu à préciser le général Chris Olukolade, porte-parole militaire nigérian.
Nous estimons que tout ce qui se déroule en ce moment se fait de concert avec ce que nous faisons pour chasser les terroristes.
L'offensive a commencé au lendemain de l'annonce par le leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau, de son allégeance au groupe État islamique, un développement sans aucune importance pour l'armée nigériane, a déclaré le général Olukolade.
Cela n'a aucune signification pour nous. Notre opération en vue de les chasser du Nigeria se poursuivra.
L'armée nigériane tente de reconquérir les zones sous contrôle de Boko Haram en vue d'y permettre la tenue des élections générales prévues le mois dernier, mais reportées au 28 mars.
Une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est attendue demain à Bangui pour une visite de 36 heures en République centrafricaine. Des rencontres sont prévues avec les autorités de transition, les hauts responsables de la mission de l'ONU ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales. Pour en savoir plus, Félix Yepassi Zembrou a joint le porte-parole de la MINUSCA, Hamadou Ntouré.
C'est une visite dans un pays qui est en train d'essayer de sortir d'une crise profonde, mais également une mission qui a commencé à travailler il y a 6 mois. Donc une visite aux autorités centrafricaines, mais aussi à la mission qui est sur le terrain ici, que le Conseil de sécurité a déployé ici, et à laquelle il a confié 3 missions principales, à savoir la protection des civils, l'accompagnement du processus politique, mais également l'appui à l'extension de l'autorité de l'État sur tout le territoire. Oui. Donc c'est une visite à double niveau, voir un peu ce que les autorités centrafricaines sont en train de faire, mais également le travail d'accompagnement de la MINUSCA et la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la Centrafrique.
Cette délégation aura-t-elle l'occasion de discuter avec les autorités de la transition du problème de sécurité, enfin de justice?
Vous savez, c'est le Conseil de sécurité lui-même qui a les prérogatives de son agenda et du contenu de ces discussions. Des rencontres sont prévues naturellement avec les autorités centrafricaines, notamment avec la chef de l'État de la transition, Mme Catherine Samba-Panza, et bien sûr le CNT, c'est-à-dire le Conseil national de transition, qui sert de parlement en ce moment.
Voilà, c'était le porte-parole de la MINUSCA, Hamadou Ntouré.
Le principal opposant burundais, Hussein Rajabu, qui s'est échappé de sa cellule la semaine dernière, a donné un entretien exclusif au service Swahili de la Voix de l'Amérique, appelant le président Pierre Nkurunziza à libérer tous les prisonniers politiques et ouvrir à tous les secteurs la participation au prochain scrutin.
faili langu na utawala wa Rais Pierre Nkurunziza ni mambo.
Hussein Rajabu affirme que ses ennuis avec le président Nkurunziza sont le résultat d'accusations sans fondement portées contre lui après qu'il s'est opposé aux efforts du président d'usurper des pouvoirs illimités. Rajabu dit qu'il ne voulait pas que le président dirige à la fois le gouvernement et le parti, le CNDD-FDD.
Il est, dit-il, le seul homme politique burundais à être aussi sévèrement puni pour des raisons politiques, malgré plusieurs événements traumatiques dans le pays, y compris le meurtre de l'ancien président Melchior Ndadaye et les combats qui ont fait des milliers de morts et contraint davantage de Burundais à l'exil. Hussein Rajabu soutient qu'il ne s'est pas évadé, mais a pu recouvrer sa liberté grâce à l'aide de certains amis. Il était condamné à 13 ans de prison.
Au lendemain d'un attentat meurtrier qui a touché Bamako, c'est un camp de l'ONU à Kidal, bastion de la rébellion, qui a été hier la cible de tirs de roquettes et d'obus. Une trentaine de tirs, bilan un mort parmi les soldats, une dizaine de blessés. Ces tirs ont également tué deux enfants, selon la MINUSMA. Le gouvernement malien promet de ne pas céder à la peur et de punir les responsables. Les explications de Claire Morin-Gibourg.
Nous sommes debout. Ce sont les mots du président Ibrahim Boubacar Keïta en réponse à cette nouvelle attaque sanglante. Les auteurs ont échoué et ils échoueront à créer la peur, a-t-il ajouté. Pourtant, c'est indéniablement une atmosphère d'appréhension palpable qui règne dans la capitale après un week-end particulièrement violent. Rappelons qu'un autre attentat avait été perpétré au cœur de la capitale dans la nuit de vendredi. 5 personnes, dont 3 occidentaux, avaient été abattues par un commando armé qui a attaqué un restaurant d'une rue très animée de Bamako. Une attaque revendiquée par Al-Morabitoun, le groupe djihadiste de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. La chasse responsable est en tout cas ouverte. L'enquête est lancée. Une magistrate de la section antiterroriste du parquet de Paris, accompagnée de 10 policiers français, est arrivée dans la nuit d'hier à Bamako pour participer à l'enquête. De son côté, le gouvernement presse la rébellion à dominante Touareg du nord du pays de paraffer l'accord de paix déjà signé le 1er mars à Alger par le camp gouvernemental afin qu'il constitue une base réelle pour la stabilisation du pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, en Irak, le général Martin Dempsey, le plus haut gradé américain, est arrivé aujourd'hui à Bagdad pour s'entretenir avec les responsables irakiens après le lancement d'une vaste offensive pour reprendre Tikrit au groupe État islamique, a constaté un journaliste de l'AFP.
Sur le terrain, ce nouveau massacre, le groupe extrémiste État islamiste a exécuté 20 personnes qui voulaient s'engager dans une milice combattant les djihadistes dans la province de Tikrit, ont indiqué lundi les autorités irakiennes. Leur mise à mort n'a pas pu être confirmée indépendamment, mais elle a été illustrée par une série de photos diffusées sur Internet.
Les forces de sécurité de l'autorité palestinienne ont arrêté aujourd'hui des dizaines de membres du Hamas en Cisjordanie, ont indiqué des sources au sein du mouvement islamiste et de la sécurité de l'autorité. Une soixantaine selon le Hamas, une quarantaine selon l'autorité palestinienne. Aucune des deux parties n'a précisé la raison de ces arrestations.
Un groupe de 47 sénateurs républicains des États-Unis ont averti l'Iran aujourd'hui que tout accord conclu avec le président Barack Obama pourrait ne plus être valide après la fin de son mandat en janvier 2017. Son approbation du Congrès, lit-on dans la lettre adressée au gouvernement iranien, l'accord actuel en négociation entre l'Iran et le groupe 5+1 serait considéré comme une entente entre le président américain et le guide suprême iranien, Ayatollah Ali Khamenei. Rien de plus. Les négociateurs ont jusqu'au 31 mars pour obtenir un accord politique et jusqu'au 1er juillet pour arriver à un accord définitif sur le nucléaire iranien.
En Ukraine, l'armée dénonce une violation grossière des accords de Minsk qui prévoit une trêve et le retrait des armes lourdes de la ligne de front dans l'est du pays. Selon l'AFP, l'armée affirme avoir subi une attaque à 10 km du port stratégique de Mariupol. Cette ville sous contrôle gouvernemental relie par voie terrestre la Russie et la Crimée, territoire ukrainien annexé par Moscou l'an dernier.
Restons en Crimée où l'OTAN s'inquiète de la militarisation de la péninsule. Selon le commandant des troupes de l'OTAN en Europe, Philippe Bridlov, cité par l'AFP, la Russie y a déployé des missiles de croisière couvrant toute la zone de la mer Noire.
Alors que le débat se poursuit aux États-Unis sur les tensions entre la communauté noire et les agents de l'ordre, un nouveau cas de homicide vient d'être enregistré. Cette fois, c'est un adolescent de 19 ans, Tony Robinson, qui a été abattu dans le Wisconsin par un policier. Des manifestations ont eu lieu pendant le week-end à Madison, suivies d'une veillée aux chandelles hier.
Et puis, après 40 ans à la tête de la diplomatie, le prince Saoud Al-Faisal est reconduit, âgé de 75 ans. Il a servi 4 monarques. Le prince a prêté serment aujourd'hui devant le roi Salman, au pouvoir à Riyad depuis le 23 janvier dernier. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Nathalie Barche.
Dans le cadre de la promotion des énergies non polluantes ce lundi matin, l'avion Solar Impulse 2 a décollé d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis pour faire le tour de la planète sans carburant. Le pilote suisse André Borschberg devait se diriger vers la capitale du Sultanat d'Oman en fin de journée, selon l'AFP. Industrie forestière en Afrique, les pays du bassin du Congo se doivent d'évoluer vers la transformation poussée des produits forestiers, selon la principale recommandation des travaux de la 31e session du comité intergouvernemental d'experts de l'Afrique centrale, qui s'est achevée ce soir à Brazzaville. Conviés par la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, les experts ont examiné les défis du secteur forestier pour en faire une véritable source d'industrialisation et de diversification de leurs exportations. Ils proposent aux partenaires au développement de créer les conditions pour une industrie de transformation par l'investissement dans les équipements, la formation et leur contribution au Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale, le FEVAC. À ce propos, un commentaire de l'environnementaliste gabonais Marc Onin Essangui.
Si on met l'accent sur, par exemple, la pharmacie, la pharmacopée, qu'on va utiliser nos plantes pour développer les molécules qui vont soigner toute la planète, nous sommes bientôt 7 milliards. L'Afrique, avec ses molécules qui proviennent de nos forêts, peut devenir ce continent qui soigne le monde entier. Et je rappelle que l'essentiel des médicaments dans les pharmacies en Occident et autres sont issus des plantes qui viennent de chez nous.
Et voilà pour la Minute Éco. Merci Nathalie Barge.
Et nous passons tout de suite à l'actualité sportive. On commence par le football africain chez les jeunes avec la CAN des moins de 20 ans qui se poursuit au Sénégal. Le Ghana a défait ce soir l'Afrique du Sud par 1-0 dans le groupe B. La seconde rencontre du groupe met aux prises le Mali et la Zambie. Hier dans le groupe A, le Nigeria a défait le pays hôte par 3-1 et match nul 1-0 entre la Côte d'Ivoire et le Congo. Toujours en football africain, fin ce week-end du tour préliminaire de la Ligue des Champions avec la qualification des Gambiens du Real Banjul. Après avoir obtenu un nul à l'aller, 1-0, le club de la capitale gambienne a défait Barakion Controllers du Liberia au retour par 1-0 pour avancer en 16e de finale. Real Banjul et les autres clubs qualifiés ont rejoint en 16e de finale l'Espérance, le club sportif sfaxien, le Coton Sport, l'AC Léopard, Al Ahly, Entente Sétif tenant du titre et le tout-puissant Mazembe du Congo. Nous reviendrons dans Sporama sur le tirage au sort des 16e de finale de la Ligue des Champions d'Afrique avec Timothée Donangmaï. Un mort au Maroc ce week-end suite à un match du Raja de Casablanca dans le centre du pays. Selon les médias locaux que cite l'AFP, un homme d'une cinquantaine d'années est décédé à Kourigba après avoir été atteint par un fumigène samedi. Des heurts entre fans rivaux ont éclaté après la victoire du Raja 1-0 contre le club local. Et il y a du nouveau dans l'affaire de dopage de l'ancien champion cycliste américain Lance Armstrong. Un rapport publié aujourd'hui par une commission indépendante affirme qu'Armstrong n'aurait pas pu remporter 7 titres du Tour de France sans la complicité des hauts dirigeants du cyclisme international qui lui ont accordé un traitement préférentiel en ce qui concerne les tests antidopage. À plusieurs reprises, l'Union cycliste internationale n'a pas appliqué ses propres règles, ont relevé les trois auteurs de l'enquête publiée aujourd'hui. Et nous allons terminer par quelques résultats du championnat nord-américain de basketball, la NBA. Golden State a émergé victorieux par 106-98 du derby californien, l'ayant opposé aux Clippers de Los Angeles. Tony Parker était en pleine forme hier soir, inscrivant 32 points pour aider San Antonio Spurs, mon équipe, à battre Chicago par 116-105. Victoire d'Orlando 103-98 contre Boston. Charlotte a défait Détroit par 108-101. Victoire de Utah 95-88 face à Brooklyn. Et les Washington Wizards, ça, n'en parlons pas. Ça risque de traumatiser Lionel Gaïma. Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Cher Hubert Dorcil et Selwa Jafari, en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, le Mali, où plusieurs attentats ont eu lieu ce week-end. Le week-end a été particulièrement sanglant.
Oui, Selwa, Kidal, une base de l'ONU a été la cible de tirs de roquettes, faisant 3 morts hier. Et la veille, on se le rappelle, l'attentat dans le restaurant La Terrasse de Bamako, qui a fait 5 morts, dont un Français, un Belge et 3 Maliens. Une attaque revendiquée par le mouvement islamiste Al-Mourabitoun, dont le leader est Mokhtar Belmokhtar, alias Khaled Abou Al-Abbas. Depuis, les autorités maliennes tentent de renforcer la sécurité dans la capitale, Bamako, et la protection des personnes et leurs biens. Une enquête a également été ouverte pour retrouver les coupables de Bamako. Reportage Kassim Traoré.
Les Bamakois, en apprenant cette nouvelle, n'étaient pas surpris, car il y a eu beaucoup de signaux avant ces crimes.
Nous voyons vraiment l'insécurité grandissante dans notre ville. Ça, c'est un truc vraiment qui fait extrêmement peur. Et nous demandons vraiment à l'autorité malienne vraiment de s'attendre pour essayer de mettre fin tout de suite à ça, vu l'état actuel du pays. Et si il faut que la ville sera, comment dirais-je, infiltrée par des djihadistes, ça fait peur, ça fait trop peur.
Cet attentat est le premier à Bamako depuis l'éclatement de la crise de 2012 au Mali.
Auparavant, on ne connaissait pas ce genre de situation. Vous voyez, et puis ils se suivent de façon simultanée. Là. À mon avis, c'est très simple. C'est à M. le Président de s'assumer, de prendre des responsabilités ici pour que les populations puissent se sentir dans la sécurité totale. C'est de renforcer encore une fois de plus la sécurité sur toute la tenue du territoire national.
L'acte commis par des individus non identifiés pose la question de la véritable sécurisation de la capitale malienne, avec des forces de l'ordre qui souvent ne jouent pas pleinement leur rôle.
La lettre de Fouquet, comme on appelle ça, le comportement des agents de sécurité, ces gens-là, généralement, ils ne sont jamais concentrés. Généralement, on les voit, ils sont assis à prendre du thé ou l'âme en bas du l'air, ils ne suivent pas. On constate qu'ils n'ont pas vraiment une vraie formation, quoi. Une formation de véritables agents de sécurité ou de défense. Parce qu'un soldat, il doit être toujours prêt à toute éventualité.
À la suite de cet attentat, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et son premier ministre se sont rendus sur les lieux du crime. Ils ont aussi rendu visite aux blessés dans des hôpitaux de la capitale. Pour le ministre porte-parole du gouvernement, l'heure est à la mobilisation. Choguel Kokala Maïga.
Je crois qu'aujourd'hui, la mobilisation des Maliennes et des Maliens est plus que jamais nécessaire. Nos forces de sécurité continuent leurs enquêtes. Le gouvernement ne se laissera ni distraire, ni impressionner, encore moins intimider par ceux qui se sont donnés à ces actes-là.
Le week-end passé a été noir au Mali, avec l'attentat à Bamako, les lynchages à Gao de 2 présumés poseurs d'explosifs et les 30 roquettes qui ont été lancées sur le camp de l'AMINUSMA à Kidal, occasionnant 3 morts, dont un casque bleu. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24h sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Le Cameroun vient de lancer un programme d'urgence de 8 millions de dollars pour la construction de 200 salles de classe, dortoirs et latrines pour 70 000 élèves déplacés par l'insurrection de Boko Haram. Ces écoles seront construites dans les localités plus sécurisées au Cameroun, loin de la région frontalière, au Nigeria, où le groupe islamiste mène souvent des attaques. Moki Edwin Kinzeka a préparé ce reportage que nous présente Lionel Gaïma.
Les combattants de Boko Haram, venus du Nigeria, ont détruit 170 établissements scolaires le long de la frontière camerounaise, forçant les élèves à fuir vers des endroits plus sûrs, a indiqué le gouverneur de l'extrême nord, Mijiyawa Bakari. Cet afflux de nouveaux étudiants met à rude épreuve les capacités d'accueil des écoles non affectées par la guerre. D'où la nécessité d'en construire de nouvelles, dit le gouverneur Bakary.
Les opérateurs économiques qui ont une crédibilité pour que très rapidement, dans un délai de 40 jours, qu'ils puissent construire ces salles de classe, ces dortoirs, ces latrines et ces points d'eau pour permettre à ces élèves de continuer leur scolarité sans un écroche.
L'homme d'affaires Ngué Foncha est chargé de fournir l'électricité aux nouveaux habitants. Il dit que le gouvernement a facilité son travail en réduisant les goulets d'étranglement administratif dans le processus des passations des marchés.
Jusqu'à cette vendredi, tous les fouilles seront faits. Et après une autre semaine, le poteau sera debout. Et dans 3 semaines, je crois qu'on va commencer à dire, bon, on est à presque 80%.
L'armée camerounaise est présente sur les sites pour sécuriser les travaux. Si tout se passe comme prévu, les élèves déplacés, dont près de la moitié sont des enfants du cycle primaire, pourront bientôt être relocalisés. Le délégué à l'éducation de base dans l'extrême nord du Cameroun, Ibrahim Joël Mahamad, se montre confiant.
Il y a presque 33 000 élèves déplacés. Ce qui est sûr, au début du trimestre prochain, tous ces élèves-là seront assis quelque part et prendre les cours dans de très bonnes conditions.
Ces 33 000 enfants et jeunes qui ont dû abandonner leurs écoles font partie de 150 000 habitants ayant fui leur maison depuis le début des attaques de Boko Haram dans cette région du Cameroun.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Retour sur l'attribution vendredi au département d'État du prix américain Femmes de Courage. Alors, Salwa, il y a eu 10 lauréates et 2 d'entre elles sont africaines.
Effectivement, 2 d'entre elles sont francophones et africaines. Il y a la centrafricaine Béatrice Epaille et l'infirmière guinéenne Marie-Claire Tchekola.
Et en parlant de Mme Tchekola, bien sûr, il faut dire qu'elle est mère de 2 enfants.
Elle est mère de 2 enfants. Elle a contracté le virus Ebola en sauvant des vies au service des urgences de l'hôpital Donka à Conakry. Et bon, elle a guéri et elle est retournée aussitôt au service des patients. Nathalie Barge lui a tendu le micro lors de sa visite au département d'État ici à Washington. Elle raconte son calvaire.
Ce jour, j'étais de garde. J'ai pris la garde d'une collègue qui était malade. On a reçu une patiente et son accent nous a montré qu'elle n'était pas guinéenne. Elle a dit qu'elle n'a pas quitté la Guinée. Effectivement, qu'elle est Sierra Leoneaise, elle est léonaise, mais elle n'a pas quitté la Guinée. Mais vous voyez, à l'époque, on ne connaissait pas bien cette maladie. On entendait parler, mais on n'était pas formé.
C'était en juillet
2014. Nous avons reçu la dame. Le médecin l'a examiné, il a demandé un petit bilan. Après le résultat de ce petit bilan, il a demandé un traitement pour pouvoir arrêter au moins les vomissements et pouvoir l'accompagner là où elle devrait être hospitalisée. Donc c'est moi qui ai fait ce travail. Après le plan cadre, il l'a accompagné là où se trouvait l'ambulance et l'ambulancier l'a envoyé là où elle devrait être couchée. Mais malheureusement, elle est décédée. Et la Croix-Rouge qui a été imprimée, qui connaissait mieux la maladie, ils sont vite venus voir s'acquérir des réalités. Ils ont trouvé qu'elle est morte par suite d'Ebola. C'est ainsi qu'ils ont cherché à connaître le trajet, le passage de la dame. Mais moi, c'est le 10e jour que j'ai senti une fatigue que je n'ai jamais eue dans ma vie. J'ai eu le mal de tête. Donc un soir, j'ai dit à ma fille, ça ne va pas, allons à l'hôpital. Nous sommes allés à l'hôpital. J'ai dormi aux urgences dans mon service. Le lendemain matin, on m'a envoyé en médecine, là où je devrais être hospitalisée. Donc j'ai passé la nuit aussi là-bas. Mais les médecins sans frontières, imprégnés de la situation, sont vite venus me demander « Ah, tu as reçu tel malade tel jour ?» J'ai dit oui. Ils m'ont dit « Elle est décédée parce de Ebola. » On sait que ce qui est clair, toi aussi tu as contracté la maladie. Et mon médecin, la stagiaire qui était avec moi, et le laborantin qui est venu prélever, le blancardier qui est venu la prendre pour la mettre dans l'ambulance, le chauffeur, l'ambulancier pour l'envoyer à l'étage, et ceux qui l'ont reçu à l'étage.
Ont contracté la maladie
tous,
également.
Nous étions au nombre de 9.
Est-ce que vous avez tous guéri de la maladie?
Non, 3 n'ont pas survécu. 3 sont morts. 6 ont survécu.
Et après cela, vous avez repris le travail?
Après ce vent, je me suis dit, à quoi ça s'est resté à la menace. C'est vrai, il y a eu la stigmatisation.
Oui.
Mais moi, ça n'a pas tellement pesé sur ma tête.
On écoutait Marie-Claire Tchekola, co-lauréate du prix Femmes de Courage, membre de l'association des personnes guéries et affectées d'Ebola, qui mène des actions de sensibilisation et lutte contre la stigmatisation des survivants.
Lutte contre le virus Ebola. VOA Afrique se mobilise. Rejoignez-nous sur WhatsApp. C'est simple, ouvrez l'application smartphone WhatsApp et envoyez Ebola au numéro suivant 1 202 257 35 83. Je répète, 1 202 257 35 83. Vous recevrez des infos et des conseils de prévention contre le virus. Restez informés, VOA Afrique.
Et au lendemain de la Journée internationale de la femme, Eddie Isango a fait parler celle qui est à l'origine de la conception de ces drôles de robots régulant la circulation en RDC, l'ingénieure Thérèse Isa Kirongozi.
Sur la route, les gens voient un robot, mais il y a un centre de contrôle qui se trouve dans une place de la police, là où on voit à temps réel tout ce qui se passe autour du robot. Le jour, c'est à 200 mètres et la nuit, avec les infrarouges, nous poussons à peu près à 250 mètres.
Il s'agit des robots dotés de caméras et qui peuvent communiquer de façon limitée avec les usagers de la route. Thérèse Kirongozi explique que l'idée de fabriquer ces robots lui est venue d'une révolte. Elle avait en effet constaté que de nombreuses femmes qui, comme elle, ont étudié pour être ingénieures, finissaient parfois derrière des étalages des marchés à vendre des petits articles.
J'emmène des femmes, je les forme et puis je les laisse pour qu'elles volent avec leurs propres ailes. Nous avons à peu près 10 jeunes filles ingénieures que nous sommes en train de lancer par rapport au système de commandes à distance.
Les soucis de Mme Kirongozi étaient premièrement de réduire le nombre des cas d'accidents sur les routes des grandes villes qui s'élargissent avec la modernisation, atteignant parfois 6 voies. Pour elle, faire bénéficier l'économie du pays des entrées qui peuvent permettre les routes était également un autre souci.
En Afrique, d'après le rapport de l'OMS, il y a 26 personnes qui meurent par heure en Afrique à cause des accidents de circulation routière. Le monde entier cherche toujours des solutions pour savoir comment on peut atténuer les cas des accidents en Afrique, surtout dans ma ville de Kinshasa, là où il y a une grande agglomération de plus de 10 millions d'habitants.
Avec une armature en aluminium, ces robots sont fabriqués par des femmes et des jeunes Congolais. Thérèse Kirongozi, qui s'était lancée dans l'aventure avec seulement l'appui de son mari il y a de cela 2 ans, commence un peu à sourire puisque le gouvernement en a commandé 30. Mais la conceptrice voit large et affirme être en négociation avec certains pays d'Afrique comme l'Angola, le Nigeria et la Côte d'Ivoire où les robots peuvent contribuer au développement et régler les problèmes communs à tous les continents relatifs à la route.
Il faut encourager les initiatives locales. C'est ça qui va créer. On ne peut pas attendre un étranger pour venir faire développer le pays parce que...
Selon elle, ces nouveaux robots seront aussi utiles à la sécurité car ils sont dotés des caméras de surveillance.
Voilà, c'était...
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le rappel des titres, le Niger et le Tchad à l'assaut de Boko Haram. Les deux armées viennent de reprendre la ville de Damasak. Une défaite cuisante pour le groupe qui vient de prêter allégeance à l'État islamique.
Le Mali en deuil après une fin de semaine particulièrement violente. La dernière attaque date d'hier. Un camp de l'ONU à Kidal a été pilonné par une trentaine de tirs. Le gouvernement promet de traquer les coupables. L'enquête est ouverte. La France envoie ses enquêteurs.
La marche de l'armée irakienne vers la reconquête de la ville de Tikrit se poursuit. Le chef d'état-major interarmes des États-Unis est en visite à Bagdad.
L'OTAN, l'organisation du traité Atlantique Nord, préoccupée par la militarisation de la Crimée. La péninsule ukrainienne a été annexée, on se le rappelle, par la Russie l'an dernier. Et on rappelle que cette édition a été mise en onde par Lionel Gaïma avec l'assistance technique de Joe Gill et de notre ami Thwaite. À la présentation, Saloua Jafari et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.